Merci beaucoup pour cette généreuse présentation. Ma générosité à moi sera moindre parce qu'il me faut, sans le trahir, modifier mon titre en raison des circonstances matérielles, puisqu'il n'est pas possible dans cette belle salle de faire de projections et que je me refuse à parler de peintres et de peintures sans montrer leurs œuvres. Donc, sans trop trahir mon titre, je parlerai de Rome plus dépeinte que peinte. Et je donnerai plus d'importance aux descriptions par la plume qu'aux descriptions par le pinceau. Je le regrette, mais cela, d'une certaine manière, me fait revenir à de lointaines amours, c'est-à-dire à mes intérêts que vous avez gentiment mentionnés pour les récits de voyage en Italie. Cela va nous faire reculer dans le temps par rapport au cinéma. Nous allons reculer d'un siècle ou deux. Mais rassurez-vous, je ne prétends pas traiter de la question des récits de voyage à Rome dans tout l'arc chronologique depuis le Moyen-Âge jusqu'à Julien Gracq. Je vous épargnerai ça et je m'épargnerai le ridicule de tenter une synthèse. Je laisserai de côté les Mirabilia Urbis Romae du Moyen-Âge. Je laisserai de côté les récits pourtant fascinants de la Renaissance. Et à ce propos, je signale qu'un ouvrage littéralement fantastique a été écrit sur l'image de Rome au XVIe et XVIIe siècle par Gérard Labraud. Et je renvoie ceux que cette affaire intéresse à cet ouvrage extraordinaire qu'a préfacé Louis Marin. Je laisserai de côté aussi les récits de voyage du Grand Tour, ce qu'on appelait le Grand Tour, c'est-à-dire cette équipée qui pouvait durer 2 ans, que faisaient les aristocrates et les bourgeois dans toute l'Europe et en Italie en particulier, en s'attardant le plus souvent à Rome. Je concentrerai l'attention sur quelques décennies seulement du XIXe siècle et encore. Il y en a tellement dans ces quelques décennies du XIXe siècle que, par une ultime réduction, je me limiterai à 3 couples. 3 couples antithétiques d'auteurs français qui se sont signalés, à un titre ou à un autre, par leur voyage à Rome et par le récit qu'ils en ont donné. Ces récits de voyage, d'une manière générale, je rappelle ce point qui est important, se signale d'une part par une tendance de plus en plus forte à mettre les questions d'art et de peinture en particulier au premier plan. Dans les Mirabilia Urbis Romae, il n'est pas question d'art. Dans les récits de la Renaissance, il en est encore très peu question. Mais peu à peu, avec Charles de Brosse par exemple, au XVIIIe siècle, on voit que dans les immenses réserves d'attraction qu'exerce Rome sur les Français, les œuvres d'art jouent un rôle croissant. Et il deviendra presque obsédant. C'est l'une des grandes lignes d'évolution des récits de voyage dans la longue durée. Une autre ligne générale d'évolution, c'est la nécessité pour les auteurs de ces récits de se distinguer un peu du prédécesseur. Car le drame des récits de voyage, c'est qu'ils se répètent. Quelquefois à l'envers, quelquefois même les récits de voyage répètent les guides. Chateaubriand, par exemple. Chateaubriand, lorsqu'il décrit non pas Rome mais Venise, plagie, littéralement, mais dans un style qui lui est propre, plagie un guide de voyage à Venise, simplement il le lit à l'envers et il dit « j'ai vu à droite l'église un tel alors qu'elle est à gauche » parce qu'il a pris, il a mal suivi les indications du guide. Donc, ces récits étant structurellement voués à la répétition, un problème majeur pour les écrivains, auteurs de récits de voyage ou auteurs de romans, ce sont souvent les mêmes, on va le voir, un problème majeur est de se singulariser, d'affirmer un moi différent, de repérer de l'inédit. Et puis, un troisième très général de ces récits, c'est bien sûr, comme vous vous en doutez, l'oscillation perpétuelle que suscite Rome entre le désir qui peut être violent, et la détestation. Ce mouvement pendulaire est tout à fait saisissant dans les récits de voyage. il ne date pas du XIXe siècle. À la Renaissance, par exemple, pour prendre que cet exemple, à côté de ce Dubélec dont les petits Français apprennent encore, je crois, à l'école, qu'il préférait son petit liré au mont palatin, à côté de lui, il y a Antoine de Baïf, qui, à l'idée d'aller à Rome, dit « je frétille », et qui meurt d'envie de connaître l'Ourbs. Eh bien, ces oscillations et ces traits généraux que j'ai voulu rappeler en introduction, on les retrouve modifiés dans les trois couples que je vous propose et qui résultent d'un choix arbitraire, d'un choix cruel. Par exemple, je ne dirai rien de Chateaubriand, ce qui me rend malade. Je suis frustré aujourd'hui. Je ne peux pas vous montrer les tableaux que j'avais préparés et je ne peux pas vous parler de Chateaubriand. Mais je vous parlerai, premier couple d'opposé, de Stendhal, on ne peut pas l'éviter lui quand même, et c'est heureux, et des Goncourt. Voilà le premier couple. Ça fait d'ailleurs un trio puisque les Goncourt sont deux, mais nous considérerons les Goncourt comme un auteur bicéphale. Pourquoi présenter ce couple comme un couple antithétique? Parce qu'il est, je crois, révélateur d'une de ces oscillations dont j'ai voulu parler, que suscite Rome dans l'imaginaire des Français du XIXe siècle et d'aujourd'hui encore. Cette oscillation, je peux la résumer de la manière suivante. À un pôle, celui de Stendhal, la Rome érotisée, la Rome érotique, la Rome objet de désir, la Rome femme. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes au sens propre et au sens métaphorique pour Stendhal en Italie. La femme qu'il préfère, c'est pas Rome. Hein. Comme vous savez, il a mieux Milan, il a mieux Bologne. Mais Rome est aussi un de ses objets de désir et il érotise Rome. Alors qu'à l'autre extrémité du siècle, dans le récit de voyage qu'ils ont publié bien après leur séjour, les Goncourt, eux, esthétisent Rome. Et cette oscillation entre l'érotisation et l'esthétisation est, je crois, dans le cas que je vous propose, particulièrement saisissante. Dans le cas de Stendhal, il me faut vous rappeler, mais je suppose que la plupart d'entre vous ont eu entre les mains l'un de ses récits de voyage. Il y en a fait beaucoup. Les promenades dans Rome, Rome, Naples et Florence, les deux Rome, Naples et Florence, et ce qu'il dit aussi dans ses ouvrages sur la peinture. Stendhal dit « Je voyage non pour connaître l'Italie, mais pour me faire plaisir ». C'est sous le signe du plaisir qu'est toujours placé le voyage et le récit de voyage stendhalien. Non pas qu'il veuille affirmer un hédonisme, il est égotiste, mais pas hédoniste, il ne veut pas affirmer une position de jouisseur, de prédateur, il veut déclencher une dialectique, un travail de l'âme, comme il dit, c'est-à-dire des associations libres à partir d'un tableau, à partir d'un visage, à partir d'une conversation, à partir d'un détail, une cheville de femme, le grain d'une voix, etc., afin de déclencher chez nous, chez le lecteur lui-même, le même jeu. Et cette attitude, qui est radicalement neuve dans l'histoire des récits de voyage, amène, bien sûr, un prodigieux renouvellement des thèmes, brise la monotonie des comptes rendus, compte rendu archéologique, ici il y a une belle église, là il y a une statue du Bernin, etc., brise les dissertations archéologiques ou les dissertations sur les beaux-arts et fait passer au premier plan, pour reprendre un jeu de mots qui est de Stendhal lui-même, non pas les murs, mais les mœurs. Jeu de mots qu'on ne peut pas faire en italien, malheureusement. C'est particulièrement clair dans les promenades dans Rome. Je cite, Stendhal dit « vouloir chercher à donner une idée des mœurs et de la manière de sentir des Italiens. Nous voulons connaître, dit-il encore, les habitudes sociales au moyen desquelles les habitants de Rome et de Naples cherchent le bonheur. » Grand mot chez Stendhal, comme vous savez. Et l'ensemble de ces récits résulte en somme de la fusion de quelque chose qui reste des Lumières. Stendhal est encore un homme des Lumières. Il a un œil philosophique. Il cherche une Italie morale. La fusion donc de cela, de cet œil des Lumières, et de quelque chose de nouveau, une quête du moi, une chasse au bonheur individuel, un égotisme, et tout cela produisant chez lui cette énergie, c'est son mot préféré, la virtus, l'énergie, dont l'Italie est la grande éducatrice. Et le point qui m'importe ici, et qui avait particulièrement frappé Roland Barthes, c'est que Rome, et à travers Rome l'Italie entière, est pour Stendhal un objet d'amour, au sens propre, un fantasme amoureux, et même l'objet d'un transfert, qui aboutit à renouveler toujours, comme dans l'expérience de l'amour, le premier plaisir. Stendhal cherche, où qu'il soit en Italie, à renouveler le premier plaisir, musical d'ailleurs, qu'il avait éprouvé en Italie, et qui le conduit, comme souvent dans les expériences amoureuses, à une sorte de racisme à l'envers. Hein, on s'ennuie, dit Barthes, on s'ennuie du même, on exalte l'autre. Et à la patrie, la France, lieu abominable pour Stendhal, bien qu'il soit consul de France, théoriquement, à la patrie, il oppose la matrie, qu'est l'Italie. D'où son dégoût profond chaque fois qu'il rencontre un compatriote en Italie. C'est comme rencontrer un rival en amour. « J'avouerai, dit Stendhal, du l'honneur national me répudier, qu'un Français en Italie trouve le secret d'anéantir mon bonheur en un instant. Bon, » ça nous arrive quotidiennement, je pense, d'avoir des expériences comparables. Le premier à les avoir exprimées, c'est Stendhal, parce qu'il a la passion de l'autre qu'est l'Italie, mais d'un autre qui est en lui-même. Il a la passion de l'autre en lui. Eh bien, à l'autre extrémité du siècle, les Goncourt pratiquent eux aussi une écriture fragmentaire, mais il n'y a aucune trace d'Eros. C'est une Rome, et plus largement une Italie, totalement désérotisée, qu'ils mettent en scène dans un texte très étrange, relativement peu connu, intitulé « L'Italie d'hier », qui est l'œuvre à la fois duelle et singulière de ces deux éducateurs du goût qui sont allés en Italie avec une femme, une maîtresse, enfin, elle était maîtresse que l'un des deux, semble-t-il, ils n'étaient pas bicéphales jusque-là, et leur propos, qui est souvent irritant, comme peut l'être l'écriture des Goncourt, déconcertant toujours, agité de tous les tics de l'écriture artiste, aboutit à un récit de voyage qui est de prose poétique, fantastique, halluciné par moments, mais dont la caractéristique principale est l'élimination de tout sentiment amoureux. Ils sont fascinés sans être amoureux. Ce qui les émeut, les excite dans un sens non érotique, c'est le chatoiement des couleurs, les variations chromatiques. Et du reste, leur récit est accompagné de dessins qui sont conservés au Louvre et qu'on ne voit pas assez souvent. Le principal résultat de leur enquête en Italie et de leur récit, c'est en fait un roman. Madame Gervaiset, dont je n'ai pas le temps de dire grand-chose, sinon que c'est une admirable étude de la ville sainte et de ses effets hallucinants. Mais si vous connaissez Madame Gervaiset ou si vous avez lu quelques pages du journal des Goncourt, vous verrez qu'il est difficile de désérotiser davantage Rome et l'Italie. Voilà pourquoi je vous propose pour commencer ce premier couple antithétique. Voici rapidement le second couple. Cette fois, il s'agit de romanciers. Bourget, Paul Bourget d'un côté et Émile Zola de l'autre. Couple que je vous propose pour faire apparaître une autre antithèse qui parcourt tout le XIXe siècle, mais qui, je pense, perdure aujourd'hui. L'opposition entre une Rome morale, comme dit Bourget, et une Rome matérielle, comme dit Zola. Avec Bourget et Zola, nous avons affaire là encore à des artistes, mais au service d'un art tout différent, l'art du roman. L'un et l'autre ont fait de l'Ourps le cadre général d'une de leurs œuvres. Et ces deux romans s'opposent diamétralement. Bourget va en Italie en 1890. Il fera plusieurs voyages, mais c'est son voyage le plus fécond. C'est déjà un homme connu. Il a déjà écrit Le Disciple, par exemple, l'année d'avant. Il a la réputation d'un anti-Zola. Il se déteste. Hein, c'est clair, c'est annoncé. Il passe donc pour un anti-Zola plus soucieux de vie intérieure que de déterminisme psychologique, plus porté à l'étude morale et aux choses de l'âme qu'à l'observation concrète sur le terrain in situ de l'Italie en général et de Rome en particulier. Son récit de voyage, du reste, porte un titre qui dit à lui seul tout, Sensation d'Italie. Il est l'un des premiers à mettre l'accent sur la nécessité, quand on voyage, à Rome en particulier, de sentir. Peindre, dépeindre, pour lui, c'est sentir. D'où un récit de voyage où seul compte vraiment le voyageur. Déplacement de l'accent de Rome vers le voyageur à Rome. Les descriptions, le dépeindre, sert de cadre à une étude du vrai moi, où constamment l'observateur se regarde regarder. Et que devient Rome dans ce cas-là ? Un simple prétexte. Un prétexte à sensation. C'est la formule du disciple, le roman de Bourget, que je vous cite. Il y a toujours eu en moi deux personnes distinctes, une qui allait, venait, agissait, sentait, et une autre qui regardait la première aller, venir, agir, sentir, avec une impassible curiosité. Donc Rome devient le prétexte d'une analyse psychologique de l'être intime. Et le récit de voyage, le voyage lui-même, aboutissent à un roman qu'on ne lit plus guère, mais c'est dommage, parce qu'avec Madame Gervaiset, c'est l'un des grands romans français sur Rome, roman intitulé Cosmopolis, œuvre spiritualiste qui dénonce le nihilisme d'une société corrompue et qui le fait avec un tempérament et une sensation, une sensibilité profondément mélancolique. Hein, je vous cite juste cette petite formule. L'Italie et Rome en particulier sont, dit Bourget, mélancoliques. Ces hommes, ces femmes, ces monuments, ces paysages ont des lignes anciennes d'histoire. Les choses vous y regardent comme du lointain d'un souvenir. Tout ce qu'on y voit de vivant a l'air d'avoir déjà vécu. Et ça et là, de beaux grands yeux, il y a quand même des femmes qui reviennent, mais un petit peu d'érotisme mélancolique, ça et là, de beaux grands yeux, éclairés par la malaria, ressemblent à ces lacs où, confusément, tout au fond, s'aperçoivent des ombres de villes mortes. Bon, voilà une Rome peu dynamique. Une Rome qui est plus mélancolique encore que celle de Chateaubriand. J'ai quand même réussi à le nommer une fois. Eh bien, juste en face, à l'opposé, diamétralement opposé à cela, et à cette vision d'une Rome frappée par la malaria, vous avez Émile Zola, qui fait son métier de naturaliste, qui fait son métier de romancier, et qui se rend dans la capitale de la chrétienté pour se documenter. Il a conçu l'idée d'un roman mettant en scène Pierre Froment, personnage qui rêve d'une papauté qui serait démocratique, c'est intéressant comme rêve, d'une église qui retournerait à ses origines, d'un catholicisme qui se voudrait social. Et ce personnage qu'a imaginé Pierre Zola entend défendre un de ses livres qui est menacé de l'index et il va plaider sa cause auprès du pape, Léon XIII. Il découvre à ses dépens la sclérose du Vatican et l'irrémédiable contradiction entre catholicisme et modernité, ce qui nous renvoie à un exposé qu'on a entendu hier. Telles sont les grandes lignes du roman que Zola ébauche en 1893 pour une trilogie de trois, intitulé Les Trois Villes. Rome est l'une des trois. Zola a lu Taine, a lu Madame Gervaiset, a lu Cosmopolis. Il s'est renseigné auprès de journalistes, il connaît la dévotion romaine, il connaît la puissance du haut clergé, mais il veut voir par lui-même, sur le terrain, la capitale de la chrétienté, avec, je cite, « son modernisme hurlant au milieu de son antiquité, avec son petit peuple et ses bourgeois ». Et les notes qu'il prend, ce n'est pas exactement un récit de voyage, ce sont des notes de romancier au travail. Ces notes qui ont été redécouvertes et publiées assez récemment, seulement en 1958, par René Ternois, constituent, à mes yeux, et je crois que c'est l'avis de plus d'un, l'une des meilleures introductions à la connaissance de la Rome moderne. Meilleure que le roman lui-même, d'ailleurs. Meilleure que le roman intitulé « Rome », qui est gâté à la fin par une intrigue passionnelle de style pseudo-Renaissance. Ce qui est fascinant dans les notes de Zola, c'est l'attention aiguë qu'il prête, de manière impressionniste. Ce sont des phrases nominales, très peu de verbes. Je n'ai pas le temps de vous en citer, mais éventuellement je le ferai s'il y avait des questions. Phrases nominales, petites touches, qui concernent l'Italie umbertienne, la spéculation foncière, l'urbanisme, déjà quelque peu fascisant, comme on l'a dit. Et pour prendre la mesure des vains efforts déployés par Rome pour se poser en capitale du jeune État italien, ce sont les descriptions de Zola qu'il faut lire. D'autant plus saisissantes, je le répète, qu'elles sont l'œuvre non d'un touriste, mais d'un romancier au travail. Il me reste quelques minutes pour le troisième couple, troisième et dernier, qui oppose cette fois Taine, Hippolyte, et Barrès. Autrement dit, à travers eux, qui opposent une Rome objet d'étude, une Rome donnée à entendre, à comprendre, à analyser, à une Rome sensible, une Rome émotive, une Rome dont il faut s'imprégner. C'est probablement l'opposition la plus forte, intelligence versus sensibilité, à propos de Rome, l'opposition la plus forte que l'on peut observer dans ce demi-siècle, considéré ici le deuxième demi-siècle du XIXe. Taine voyage, lui, évidemment, selon sa formule, pour analyser la race, le milieu, le moment. Il a beaucoup voyagé, en Allemagne, en Autriche, etc., mais c'est en Italie que sa méthode apparaît le plus lumineusement. Sa méthode consiste à voyager tout en faisant des recherches historiques. Il allie l'enquête historique à l'art de voyager, dans un étroit accouplement qui peut être fécond, mais qui peut aussi être monstrueux. Et l'enquête de ce professeur au-delà des Alpes est la plus méthodique qui soit, marquée par un perpétuel va-et-vient entre l'analyse et le système, que l'on peut observer d'ailleurs dans toute son œuvre. Dans sa serviette de professeur à l'École des Beaux-Arts, il rapporte donc des descriptions de Rome qui se signalent par une double opération. C'est à la fois très excitant et très fatigant de lire le récit de voyage de Taine. Une double opération. D'une part, il réduit le complexe au simple, et ensuite il construit des modèles, des paradigmes où se condense une période. Telle église permet de comprendre le Moyen-Âge. Et il oppose les périodes, de manière assez nationaliste. D'ailleurs, si vous lisez ses descriptions du Gesù à Rome, qu'il compare à la cathédrale de Strasbourg, vous verrez que pour lui, le match se termine par un chaos. C'est le Gesù qui est chaos. La cathédrale de Strasbourg flanque par terre l'art de la contre-réforme, sans parler du baroque. En vérité, Taine, et beaucoup de Français avec lui, ne voyage pas à Rome. Il voyage dans l'histoire de Rome. Et il voyage à Rome animé d'une extraordinaire mauvaise humeur, une morosité, je n'ai pas le temps, parce que l'œil de la présidente est sur moi, de vous lire des passages, mais ils sont terrifiants, où Taine décrit la décadence romaine avec une mauvaise foi, une animosité, une vacherie dont je ne connais pas l'équivalent au XIXe siècle. C'est un savant hargneux qui s'est profondément déplu à Rome. Et en face, dernier personnage, sixième et donc dernier de mon assaggino, comme on dit, j'adore ce mot en italien, ce que je vous propose là, c'est simplement un assaggino, un échantillon. Le dernier, c'est Barès, qui a pour Taine une véritable détestation, qui le traite de balourd. Hein, c'est ce récit de voyage de Taine, c'est, dit-il, de la pure balourdise. Et Barès vient, lui, avec son arrogance propre. Et il est jeune encore, il est prince de la jeunesse, plein d'énergie, déjà célèbre. Il a écrit Sous l'œil des barbares, il a déjà écrit le jardin de Bérénice. Il a été battu aux élections. Il était candidat boulangiste, et c'est probablement pour se consoler de cet échec politique qu'il se rend en Italie et à Rome. Non pas pour rendre un culte à Rome, mais pour rendre un culte à son moi. Voilà deux manières, au fond, opposées, Taine et Barès, d'éclipser Rome. L'un, Taine, éclipse Rome en l'écrasant de sa science et de ses théories historiennes. L'autre, Barès, éclipse Rome en mettant son moi à la place de Rome, en mettant ses sensations à la place de Rome. À chaque étape, et notamment dans la capitale de l'Italie, cet amateur d'âme et de paysage applique ses propres maximes, les maximes de l'homme libre, que je rappelle parce qu'elles résument tout. Premier principe. Nous ne sommes jamais si heureux que dans l'exaltation, pour s'exalter. Deuxième principe, ce qui augmente le plaisir de l'exaltation, c'est de l'analyser. Conséquence, dit-il encore, il faut sentir le plus possible en analysant le plus possible. Et du coup, il fabrique artificiellement, on sent l'artifice chez lui, c'est effrayant, il fabrique à partir de Rome, la figure d'une enivrante maîtresse pour laquelle il n'a pas d'amour. On est loin de Stendhal. Stendhal était vraiment amoureux de Rome. Barès, non, il est amoureux de l'amour qu'il pourrait porter à Rome s'il était moins centré sur son propre moi. Je conclus de cet assaggino qui, encore une fois, n'est pas représentatif de l'ensemble de cette immense production, mais qui fait apparaître, j'espère, des tensions qui, elles, sont permanentes, je conclus qu'en cette fin de siècle, le 19e, l'Italie n'est jamais vue qu'à travers bien des écrans. Et bientôt viendra le condottiere, je veux dire André Suarez, qui ira jusqu'à affirmer que le voyageur, je cite, « est ce qui importe le plus dans un voyage ». Donc, immense variété, quelques constantes, mais toujours des écrans qui s'interposent entre le voyageur français et la capitale de la chrétienté. Bien avant le XIXe siècle, Creuset de Lesner avait rédigé ma conclusion, donc je n'ai qu'à le citer. Les voyageurs de tout pays, disait-il, qui ont décrit l'Italie, déterminés à y trouver et à y prendre des beautés de tout genre, ont souvent commencé par les imaginer, par les admirer ensuite. Ce sont des hommes qui se sont mis devant les yeux des lunettes vertes et qui ont tout vu en vert. Mais heureusement, le vert est la couleur des Italiens. Je vous remercie.